depuis maintenant un certain temps ensemble. Et si vous aviez été avec nous, vous savez que par le moment où on arrive dans Jean 16, on arrive à la fin du livre. Jésus va aller sur la croix. Et les disciples sont en train d'être préparés pour son départ. Il y a un sentiment que les choses vont changer, que les choses seront très différentes. Que Jésus va partir, qu'est-ce que ça veut dire et comment ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire la vie chrétienne sans lui? Comment est-ce que vous suivez quelqu'un qui n'est plus là avec vous? Et ça leur a causé des problématiques, des difficultés, et pour Jésus aussi, parce qu'on voit que les chapitres 14, 15, 16, il fait des enseignements intensifs. Et dans Jean 16, il va abandonner et il va simplement prier pour eux. Donc on a ce sentiment qu'il y a une préparation finale. Voilà, que c'est un dernier préparatif avant qu'ils partent. Donc dans le chapitre 16, verset 12, Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous avez passé 3 ans avec moi dans cet entraînement intensif en tant que disciple. Je vous ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le royaume de Dieu. Et j'ai plus de choses encore à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous êtes arrivé à saturation sur votre capacité de comprendre mes enseignements. J'ai plus de choses à dire, mais vous êtes plein. Verset 13. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus dit, j'ai plus de choses à dire, mais vous ne pouvez pas l'appréhender à un moment. Donc je vais envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous guider et va vous emmener dans toutes les choses que vous devez savoir, dans toutes les vérités que je ne vous ai pas encore dites. Il vous dirigera. De quelle vérité Jésus est-il en train de parler? Le Saint-Esprit parlera de toutes les vérités. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit va nous apprendre tout, qu'on peut lui demander et qu'il nous apprendra absolument sur tout? Peut-être certains d'entre vous savent. Il y a un petit moment, je crois en 1999, je ne suis plus sûr de l'année exacte, il y avait une association qui offrait $1 million à qui pouvait résoudre un problème parmi 10 qui ont... qui ont troublé les mathématiciens pour toujours. Et si vous résolviez l'un de ces 10 problèmes, il vous donnerait $1 million. Est-ce qu'on devrait prier au Saint-Esprit pour dire « Saint-Esprit, s'il te plaît, apprends-moi à résoudre ce problème et j'aurai $1 million et ce ne serait pas super ?» Et ça, est-ce que c'est ça ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il va vous guider à travers toutes les choses, toute la vérité? Non, pas du tout. Malgré le désappointement de tous ces étudiants qui sont en train d'étudier pour des examens ou qui sont en examen et qui n'ont pas les réponses et qui aimeraient les avoir en les demandant à Jésus. Non, Jésus est en train de parler, de leur enseigner tout ce qu'ils doivent savoir à propos de la vérité. Et la vérité est Jésus. Il est en train de dire, il y a plus de choses que j'ai à vous dire. Vous ne pouvez pas l'appréhender, le supporter pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous le révélera. Il vous donnera l'implication complète de qui je suis et de ma crucifixion et de ma résurrection. D'une manière très spéciale et unique, le Saint-Esprit va dire aux disciples de Jésus des informations additionnelles, complémentaires, qu'ils vont enregistrer pour que tout le monde puisse connaître la vérité. Et il y a un sentiment que ceci s'applique de manière unique aux disciples à qui Jésus est en train de parler. Et ils ont enregistré ça dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures pour nous. Donc on a, dans les Évangiles, la révélation complète de ce que, dont nous avons besoin pour la vie et être sauvés. Il y a un sentiment pour lequel c'est unique. Il y a un autre sens dans lequel Jésus parle à chaque personne ici présente ce matin. Il nous dit, je vous ai appris, mais il y a plus. Il y a plus de choses que je veux que vous sachiez. Et en faisant ça, il pointe un très grand danger pour vous et pour moi. Parce que chacun d'entre nous avons un besoin, un sentiment intérieur de « je suis arrivé », un sentiment d'être arrivé au bout. Je comprends maintenant. Je suis arrivé au bout de ma compréhension. Je suis là-bas. Et on souhaite ça. Et on continue de chercher pour ce sentiment. Et des fois, on pense qu'on est arrivé. On pense. Vous savez, j'ai fait ce truc chrétien pendant très longtemps. J'ai tout entendu par le passé. Je sais tout. J'aurais préféré qu'il parle de quelque chose d'autre parce que j'ai déjà entendu parler de ça. Et voilà, j'ai fait partie de l'Église. Je sais comment elle marche. Je sais leur rise. Je connais la vie. Il y a ce sentiment de j'y suis. Il n'y a rien d'autre de plus à savoir. Et c'est un endroit très dangereux, spirituellement parlant, si jamais on atteint cette zone. Il y a toujours plus de choses. Le problème est, vous êtes arrivé à un point de saturation et vous devez demander en priant au Seigneur, « Seigneur, agrandis mon habilité de pouvoir enregistrer des nouvelles choses et de pouvoir comprendre qui tu es. Enseigne-moi, Seigneur. » Être un pasteur est un job un peu particulier, un métier un peu unique. Quand on regarde le livre d'Actes, les gens étaient mis de côté pour la parole de Dieu et la prière. De telle manière, j'ai été mis de côté pour la responsabilité de la parole de Dieu et de prière. Donc je passe beaucoup de temps à étudier la parole de Dieu. Étudier. Et je me souviens d'un moment, il y a quelques années, j'avais mon temps de dévotion. Et je me souviens de ce moment où je me disais, mais je connais ce livre. Voilà, ça me manque le moment où je ne connaissais pas ce livre. Seigneur, j'aimerais tellement qu'il y ait un 67e livre, parce que j'ai tellement lu ces 66 livres. Voilà. J'aurais souhaité qu'il y avait un autre livre. Et je me souviens du Saint-Esprit qui a soufflé mes oreilles.
Read the Canticles, I think,
Voilà. Et le Saint-Esprit m'a dit, lis les cantiques de Salomon, le cantique des cantiques. Il y a deux livres qui sont mes livres que je préfère le moins. Le premier, c'est le livre de Vénicus, le Lévitique, donc le livre de Lévitique. Et le deuxième, c'est Chronique des Cantiques. Voilà, c'est des poèmes d'amour. Je préfère beaucoup plus l'action et l'aventure du livre de Josué ou de Paul ou le livre de Romains. Parce que ouais, voilà, la poésie d'amour avec les colombes, etc., c'est pas mon truc. Donc le Saint-Esprit a soufflé à mes oreilles, a murmuré à mes oreilles. Il y a plus de choses, je veux que tu lises le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, quelque chose que je lisais une fois par an parce que j'avais le sentiment que je devais le faire. Maintenant, je vais faire le livre de Romains encore. Dans mon temps de dévotion, je recommencerai le temps de Romains. Et Saint-Esprit me dirait, non, on va voir Cantique des Cantiques. Non, Romains. Et finalement, le Saint-Esprit m'a dit, tu es celui que j'aime. Pourquoi ne liras-tu pas le Cantique des Cantiques? D'accord. Et donc, j'ai commencé à lire le Cantique des Cantiques avec l'état d'esprit que je suis le bien-aimé de Dieu et je ne suis pas allé au-delà de 4 versets et je pleurais. Ici, j'étais à un point où je pensais que je savais tout. Et j'ai osé demander au Seigneur de me montrer plus. Et il m'a répondu. Il a répondu à cette prière. C'est un endroit très dangereux d'arriver à un moment où on se dit qu'on sait tout. Quand on parle de la gloire infinie de Jésus et de son amour pour nous et du message des évangiles, alors Jésus nous dit, il y a plus. Il y a plus. Et le Saint-Esprit nous est donné pour nous guider à travers cet apprentissage du plus. Donc ne pensez pas que vous êtes arrivé. Ne pensez pas que d'une certaine manière vous avez atteint ce niveau de maturité de telle sorte qu'il n'y ait plus rien derrière. C'est faux. À la place, demandez à Dieu. Prie à Dieu en lui demandant, je sais qu'il y a plus Seigneur, alors dirige-moi pour apprendre ces choses en plus. Et le Saint-Esprit viendra et va prendre ce qui appartient à Jésus et il va nous le montrer. Et nous le louerons. Le Cantique des Cantiques m'a appris tellement sur l'amour, le cœur que Dieu a pour nous. L'amour que Jésus a pour nous. Quand vous le lisez à travers les yeux de celui qui est le bien-aimé, c'est tellement incroyable. Il y a un moment donné, dans le Cantique des Cantiques, il y a un petit moment dans le Cantique des Cantiques où celui qui aime Jésus dit à sa bien-aimée, « Arrête de me regarder. Un aperçu de ton œil cause mon cœur fait que mon cœur bat avec passion, très fortement. Je peux à peine le vivre, le supporter. Mais est-ce que vous avez déjà dit que votre amour pour Jésus, votre aperçu vers lui, votre regard vers lui, remplit son cœur avec de l'amour? En même temps que vous louez ce matin, Jésus est en train de regarder et se dit, « Ah, mes émotions, je peux à peine les contenir. C'est pour ça que j'ai donné ma vie, pour avoir ces relations avec vous. Ça me réduit en larmes ce matin-là. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Alors certains de ses disciples ont dit, quelle est cette chose qu'il nous dit ? Encore un petit moment et vous ne me reverrez plus, et puis un autre moment et vous me reverrez ? Parce que je vais au Père. Alors ils demandent, mais que veut-il nous dire par encore un peu de temps ? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et Jésus savait qu'ils voulaient le demander, alors il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, et personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous plaindrai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le nom, le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je retourne vers le Père. Et ses disciples lui dirent, « Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Donc Jésus les enseigne plus sur ce qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de tristesse parce que Jésus va mourir et puis il va revivre. Et ils seront remplis de joie. Et ils disent, ah, maintenant on comprend, Jésus. On l'a enfin compris, maintenant. Et Jésus dit, dans le verset 31, vous croyez juste maintenant ? Verset 32. Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue. Vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jésus leur dit, vous pensez que vous comprenez maintenant, vous pensez que vous comprenez, quelque chose va se passer qui va complètement tailler votre foi en son cœur, quelque chose va se passer qui va vous causer du doute et vous éparpiller. Jésus leur a dit, il sait que ceci va arriver et il essaye de les préparer pour ce moment-là. Mais je pense qu'il essaie aussi de préparer vous et moi pour ce qui va se passer dans nos propres vies. On pense que la vie va être facile, que la vie avec Jésus est juste joyeuse, que c'est heureux, que c'est sans soucis. Et il y a un sens dans lequel c'est le cas. Mais ce que Jésus fait souvent pour nous apprendre plus et qu'il nous emmène dans des endroits où vous pensez que vous avez le truc, que vous avez tout compris, que vous faites bien. Mais je vous rappelle que quelque chose va arriver et que la vie va vous faire trembler et ça fait partie de ma volonté pour vous et ça va vous emmener plus profondément. Certains d'entre vous sont en plein milieu de ce process en ce moment. Certains d'entre vous sont ici à Strasbourg et vous venez d'un autre endroit et on dirait que tous les conforts de la maison sont partis. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment est-ce qu'on va réussir à survivre ici longtemps? Dieu est en train de travailler dans vos vies. Il essaye de vous, il souhaite vous ramener vers lui, de vous prouver que malgré toutes ces circonstances, qu'il est là et qu'il suffit. Que réellement, il est tout ce dont vous avez besoin. Il peut amener une joie profonde, restante, complète. Au milieu de ce chaos qui nous entoure, n'est-ce pas excitant de savoir ça? Vous ne trouvez pas ça excitant? Si vous êtes comme moi, je préférais le lire dans un livre que le vivre dans la vie, ou je préférais aller voir un film à propos de ça que de traverser ça dans ma vie. Mais Dieu nous emmène à travers ça pour qu'on puisse découvrir qu'il est suffisant pour nous. Au milieu de tout ça, Jésus dit, verset 33, « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde.
Take heart. I have overcome it. I have overcome it. I am greater than all of the struggles.
Je suis plus grand que toutes les difficultés que vous allez devoir faire face. Je suis plus grand que toutes ces choses. Voilà, Romains 8, c'est l'un de mes chapitres préférés de toute la Bible pour beaucoup de raisons, notamment ceci. Romains chapitre 8, en commençant au verset 31.
Romains
8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui sera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand Paul écrit ces mots, il n'écrit pas comme un certain professeur pour écrire de ça d'un bureau au coin de la rue quelque part. Non, ça, c'est ce que j'appellerais « j'y suis allé, je l'ai fait et j'ai récupéré le t-shirt » théologie. Il a été persécuté. Il a été ruiné. Il a été nu, il a été en prison, il a dû faire face à la mort, et il peut dire avec confiance, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est dans le Seigneur Jésus Christ. Rien, rien ne le peut. Et l'une des raisons pourquoi Dieu nous emporte à travers ces difficultés, c'est pour que vous aussi, vous puissiez dire, moi aussi j'ai eu le t-shirt. Moi aussi j'ai eu le t-shirt. Je suis allé là-bas. Et je sais que rien ne me sépare de l'amour de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en même temps, pendant qu'on traverse ces difficultés, voilà un des messages de Jean du chapitre 14 jusqu'au 16, c'est comment traverser cette période difficile. Comment est-ce que vous avez passé à travers la vie chrétienne? Et ça se résume à ça. Chercher une rencontre plus profonde avec lui à travers la prière est une clé de la joie. Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16,
Jésus dit, en that day you will ask nothing of me.
Truly, truly, dit à ce moment-là, vous ne me demanderez plus. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Rappelez-vous, on a vu ceci dans le chapitre 15 de Jean, là, d'être enraciné. Souvenez-vous, on avait parlé de la vigne, du cep et de la branche qui doit être complètement greffée sur le cep. Et qu'en suivant, en résultant, on a une relation plus profonde avec lui. On porte plus de fruits et on a une joie plus complète. Tous les fruits de l'esprit viennent quand on cherche à le connaître et à le suivre. C'est des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses. Jésus nous dit toutes ces choses. Et il dit ces choses à ses disciples parce qu'il va partir pour faire que toutes ces choses soient possibles en mourant sur la croix pour nos péchés. Pour que Dieu puisse pardonner nos péchés, nous purifier, qu'on soit juste à ses yeux, qu'on puisse marcher devant le trône de Dieu, qu'on puisse prier, demander et recevoir, pour qu'on puisse avoir une relation complète et profonde avec lui. Donc on va prendre un moment aujourd'hui pour célébrer la communion ensemble. C'est son sacrifice pour nous. Pour que nous en souvenons, qu'il a payé avec sa propre vie pour qu'il puisse avoir une relation avec nous, pour que nos péchés soient oubliés, soient pardonnés. Pardon. La nuit où il a été trahi, tous les disciples de Jésus ont pris du pain. Jésus a pris un bout de pain, l'a brisé en deux, et il a dit, prenez ceci, car ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De la même manière, il a pris la coupe de vin et après avoir remercié, il a dit, prenez et buvez. Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui a été versée pour vous et pour beaucoup pour le pardon des péchés. Faites ceci en souvenir de moi. Lui qui a payé un prix tellement grand pour nous cherche à avoir une relation avec nous. Et il étend cette invitation à nous pour qu'on puisse venir vers lui, transformé, nouveau, qu'on puisse comprendre le pardon des péchés, son pardon et son amour. Dans un petit moment, je vais faire une prière de bénédiction devant le vin et le pain. Et je vais vous inviter à venir. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes plus que bienvenu à venir à cette table, même si c'est du coup d'une branche différente du christianisme. Ici, c'est sa table, c'est pas la nôtre. Donc si vous suivez Jésus-Christ, je vous invite grandement et chaleureusement à venir faire cette communion, car c'est sa table qui est ici présente. Et vous pouvez soit venir devant et manger le pain trempé dans le vin devant, ou vous pouvez le ramener à votre chaise et le faire chez vous, en priant. Donc vous pouvez venir vraiment quand vous le souhaitez, quand vous êtes prêt. À l'arrière, on a des personnes qui font partie de notre équipe de soutien et de prière. Ils sont ici ce matin pour prier pour vous. Et si vous avez un besoin de prière, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel, ils sont ici pour prier pour vous. Nous avons des gens qui parlent différentes langues, donc vous pourrez trouver quelqu'un qui pourra parler avec vous et prier pour vous, demandant de Dieu d'agir dans vos vies. D'accord ?